parler autour de votre grande table. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'asile, une vie en transit, à l'occasion du festival du documentaire d'Arte. Nous serons dans une cinquantaine de minutes en duplex de Berlin avec le réalisateur Karim Aynouz pour son film Berlin Tempelhof, diffusé ce soir sur la chaîne franco-allemande. C'est du nom de l'aéroport Tempelhof, qui a servi de lieu d'accueil des migrants à partir de 2015. Et avec nous ici en studio, la juriste Karine Parot qui publie Carte blanche, l'État contre les étrangers à la fabrique. Mais d'abord, un certain regard sur la famille avec la comédienne Monia Chokri qui passe à la réalisation et son film La femme de mon frère qui sort en salle mercredi. Prix du coup de cœur du jury à Cannes dans la section Un certain regard au printemps. Un film tendre et gouailleur sur la relation frère-sœur et l'apprentissage de l'amour en temps de crise. Monia Chokri est notre invitée à écouter jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Gesbert.
Elle et lui, Sophia et Karim, son frère et sœur. Sans boulot, elle vit chez lui, partage tout avec lui, jusqu'à ce que, au détour d'un avortement où il accompagne sa sœur, Karim tombe amoureux de la gynéco. Elle est la femme de mon frère.
Alors, je vous le demande parce que c'est le protocole, mais est-ce que vous êtes bien certaine de vouloir interrompre?
Oui.
Et c'est votre deuxième avortement, c'est bien ça?
Mais le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment.
Est-ce que vous faites du sport?
Pas mal, quand même.
Donc, c'est votre petite amie qui va vous accompagner après l'intervention?
Non.
Ben non.
Oui.
Enfin, ben, je suis son frère.
Que c'est ma soeur.
Non, je suis sa sœur.
Tu devrais sortir avec une femme comme elle au lieu de dater des folles. Elle est parfaite. Mais là...
Eh oui.
Pis, c'était comment? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est très rigide au lit. Genre belle, mais potentiellement morte à l'intérieur.
Non.
Allô?
Ça n'a pas du tout rapport avec tout ce que je viens de dire.
C'est correct.
J'héberge ma sœur en attendant qu'elle trouve un sens à sa vie.
Pourquoi tout le monde demande à tout le monde s'il veut des enfants? Comme si on était en pénurie d'êtres humains.
Non.
Bonne soirée.
Tu es, disons, surqualifié pour tous les emplois auxquels je t'ai soumise. Et en même temps, t'as de l'expérience dans aucun domaine.
Aimerais-tu fumer de la drogue?
Pourquoi j'étais pas au courant qu'on serait quatre? Est-ce que c'est une double date?
Ouh! Ah, tout un look!
Ah, ben oui, toi aussi, t'as des lunettes de couleur.
Bonjour Monia Chokri.
Bonjour.
En famille, il faut toujours savoir couper le cordon, un jour ou l'autre.
Oui, enfin c'est compliqué dans une famille. Moi je viens d'une famille méditerranéenne du côté de mon père et on coupe très difficilement le cordon dans ce genre de famille où le noyau familial a une importance primordiale dans la psyché et dans la construction de soi-même et dans la prolongation de soi-même à travers d'autres enfants plus tard et voilà. Donc oui.
Là, dans cette relation entre le frère et la sœur, elle est belle d'ailleurs cette relation, ils ont tous les deux quitté le nid, mais elle peine à commencer sa vie ou sa vraie vie d'adulte puisqu'elle n'a pas trouvé de boulot à l'issue de nombreuses années d'études et d'une thèse très fructueuse. Elle ne trouve pas de poste à l'université et lui vient à son secours, il la loge, il la recueille et ils continuent ce petit bout de chemin ensemble jusqu'à ce que... arrive cette rencontre pour lui, après être passé de femme en femme, il va vraiment tomber amoureux, avoir un coup de foudre pour la gynéco de Sophia. Et là, pour elle, c'est comme une trahison. En fait, il la trompe quelque part.
Oui, d'ailleurs, La femme de mon frère, ce titre, c'était un double sens, parce qu'au départ, il y a effectivement, de manière frontale, Héloïse, donc cette nouvelle femme dans la vie du frère, qui sera la femme de mon frère. Mais au départ, la femme de mon frère, c'est elle-même, c'est Sophia. Donc elle a cette relation. Et en fait, j'ai décidé de traiter de cette relation d'abord parce qu'elle n'avait pas de film sur ce sujet entre un frère et une sœur, mais aussi parce que je trouvais que le parallèle était intéressant avec cette idée du couple. En fait, j'avais observé et j'observe toujours que plus on vieillit et plus on est longtemps en couple avec quelqu'un, on finit par lui ressembler, par avoir les mêmes gestuels, les mêmes mimiques, les expressions, les valeurs. On habite ensemble, parfois on ne dort pas ensemble parce que l'autre ronfle de plus en plus, et donc il y a cette espèce, et on se crâne et on se taquine, parfois on s'énerve. Et je trouvais que cette relation était plutôt similaire à cette relation frère-sœur. Et voilà comment je voulais l'explorer sans tomber dans l'inceste, en fait. C'était le.
Et parce qu'il n'y a rien de charnel entre eux.
Non, absolument pas.
C'est ce qui... juste une grande relation d'amitié, d'amour,
oui.
Frère-sœur.
Oui, c'est une fusion.
Cette phrase.
C'est une fusion.
Ouais.
Et ça pourrait l'être d'ailleurs avec. On peut. Il y a des gens qui n'ont pas de frères et sœurs qui vont voir le film et qui, eux, me disent ah, bah, ça me fait penser à cette relation que j'avais avec un ami. Ou... C'est une relation de fusion, en fait, simplement.
Et il va tout à coup lui donner à une autre l'attention, les mots, les regards qu'il lui accordé à elle jusqu'ici, donc dans cette relation fusionnelle qu'elle a avec son frère, il y a aussi un peu de jalousie, une part d'envie. Des deux, c'est lui l'enfant qui a réussi, c'est lui qui fait la fierté, pense-t-elle en tout cas, de ses parents. Il a un bon boulot, il est psy, il est séduisant et séducteur, il plaît aux filles, il a de l'humour, et puis il a un appart à lui. Pas évident pour elle de trouver sa place dans tout ça. Hein.
Bah absolument, et je pense que c'est le cas d'ailleurs de beaucoup dans la fraternité. Il y a ce grand conflit ou ce grand problème qu'on peut retrouver d'être à table avec ses parents et que on est deux, trois enfants frères et sœurs et qu'il y en a un qui réussit plus que les autres. Et ça se voit dans beaucoup de familles où à un moment, c'est presque gênant. Celui qui réussit a toute l'attention, est encensé. Et je pense que ça peut être très difficile pour d'autres de se positionner dans ce rapport un peu de... Malgré soi, les parents nous mettent dans une forme de compétition en encensant un enfant plus qu'un autre, même si on n'est pas dans le même domaine. Pour le coup, les deux sont dans les sciences molles, puisque lui, il est psychologue et qu'elle a fait des études en Sciences Po. Mais voilà, donc oui, elle peine à trouver peut-être sa place et elle a cette honte face à la famille.
Et c'est un film générationnel aussi, Monia Chokri, qui dit aussi la difficulté de beaucoup d'étudiants à trouver du boulot après 7, 8, 9 ans d'études aujourd'hui, des têtes bien pleines qui se retrouvent sans débouchés. Le diplôme ne fait plus le bonheur en France, au Canada et
oui,
ailleurs.
Oui, ah bah tout à fait. Et c'est très drôle parce que les gens qui ont fait des hautes études universitaires ou enfin qui sont doctorat ou docteur me disent que c'est un film d'horreur pour les universitaires. Donc voilà, pour certains, c'est une comédie, pour d'autres c'est un film d'horreur, mais oui, je voulais traiter de ce problème parce que c'est quelque chose que j'observe aussi beaucoup autour de moi. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des études universitaires et qui sont au doctorat ou qui ont terminé le doctorat, qui ensuite continuent des études, soit en font des post-doctorats, essaient de se positionner dans le milieu universitaire, et c'est très complexe. Il y a 30 ans, donc c'est un peu aussi un dialogue avec Denis Arcand, mon prédécesseur, qui lui aussi traitait du milieu universitaire, mais à cette époque, il y avait une légèreté. Tous ces personnages sont professeurs d'université. C'est très compliqué aujourd'hui. Donc c'est un dialogue avec nos propres parents, en fait, de dire bien, nous, on ne peut pas se positionner dans ce monde, on n'a pas de place, en fait.
D'ailleurs cette génération, la génération de Denis Arcand, qui juge l'entrée ou pas à l'université de cette jeune fille.
Oui, il y avait un vrai
et on voit les repères très différents.
Absolument. Ouais. Oui, il y avait un vrai clin d'œil dans la première scène où on est à l'université. C'est un vrai clin d'œil au travail de Denis Arcand, au déclin de l'Empire américain.
Jusqu'au dernier, la chute de l'Empire américain, où son personnage, Pierre-Paul, devient livreur, faute d'avoir trouvé un boulot après ses études de philo,
oui,
dans le dernier film de Denis
étonnant.
Arcand.
Ouais. Oui, c'est
ce qu'il
étonnant.
Montre avec beaucoup d'humour.
Mais bizarrement, quand j'ai vu la chute de l'Empire américain, la prémisse est exactement la même. Ce sont deux étudiants en philo qui ont terminé en fait leurs études en philo, qui ne trouvent pas de boulot, et les deux, dans la première scène, disent à peu près la même chose, mais l'articule différemment. C'est-à-dire que moi, je dis plus t'es beau, en fait, et moins tu réfléchis, moins ta vie a de chance d'être misérable. Et lui dit en gros que si tu n'es pas intelligent, tu risques d'être plus heureux, hein, un truc comme ça. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a écrit nos films en même temps, on a tourné en même temps, on articule la même pensée ou l'hypothèse de base, et après nos films vont dans des directions très différentes, peut-être dues à nos générations et à nos âges. Donc la résolution est très différente.
En tout cas, le parti pris est effectivement différent. Lui, Denis Arcand, il est comment? Il est comment dans la vie? Vous
dans la vie?
Oui, oui.
Bah, c'est un homme de son époque.
c'est quoi son époque?
C'est-à-dire que je pense qu'il a apporté énormément au cinéma québécois. Mais on est très différents. Je ne saurais pas comment dire parce que c'est toujours compliqué de parler des gens qu'on connaît très peu. Je les côtoyais un peu, mais voilà, je sais pas.
Il fait penser un peu au père de la famille aussi de Sophia et Karim. Les parents qui forment dans votre film, Monia Chokri, un couple mixte, lui est méditerranéen, elle est québécoise, mais c'est lui qui est au fourneau et c'est elle qu'on attend pour dîner. Vous êtes la fille d'un peintre tunisien et d'une journaliste québécoise. On pense retrouver peut-être cet équilibre qu'il y avait chez vous. Va savoir, c'était comme ça à la maison.
Alors mon père adore cuisiner. Est-ce que c'était lui qui cuisinait tout le temps? Ma mère est quand même une mère courage. Elle fait partie de ces femmes qui ont fait des enfants, qui ont mené une carrière et qui en plus avaient des repas, faisaient des repas chauds très bons. Tous les soirs, donc après ça a changé. Mais aujourd'hui, oui, mon père aime beaucoup faire la cuisine et souvent au fourneau. Oui, il y a des parallèles. Ensuite, moi, je préfère parler d'autofiction que d'autobiographie, parce que si c'était une autobiographie, j'aurais fait un doctorat, j'aurais habité chez mon frère, ce qui n'est pas le cas. Après, je prends des éléments du réel et je les malaxe pour les transformer, pour en faire de la fiction. Voilà.
On part les retrouver autour d'un dîner.
Il n'y a rien mangé. Elle ne mange jamais rien.
Un peu de purée.
Ah, laissez-moi tranquille, je suis une obèse morbide. J'ai hérité du pouvoir magique des sœurs de papa.
C'est-à-dire?
Le pouvoir de penser à la nourriture et de grossir instantanément.
Super. Dis-toi au moins que t'es dans la bonne période.
De pain.
On passe la première moitié de notre vie à se trouver grosse, puis l'autre moitié à se trouver vieille et grosse. Mais sinon, tu fais quoi de tes journées?
La recherche. La réflexion.
As-tu fait des demandes d'emploi?
Oui.
Où?
Plein de tâches.
Un exemple.
Le centre de recherche de la science humaine. De la science humaine.
De Montréal.
Nord.
Modeste.
Pourtant, c'est vrai.
Non, mais peut-être que tu devrais envisager quelque chose de plus modeste en attendant le poste d'université idéal.
Le manque de rigueur, voilà. Un travail, ça se mérite. Regarde ton frère.
Pas besoin de nous mettre en opposition.
Ben, c'est pas comme si j'avais un modèle de réussite professionnelle, hein, papa?
Ton père a mal au dos.
Tout le monde a mal au dos.
J'ai un métier, moi.
Oh, oui. Ex-communiste qui joue à la bourse sur Internet.
Avec sa pension du gouvernement.
C'est que ça, le titre exact de ton poste dans ton entreprise imaginaire.
Okay, non, mais... OK, arrête. Je fais 200 dollars aujourd'hui.
Elle a pas envie de parler de ça. Laissez-la tranquille.
On parle toujours la bouche pleine à table dans les familles québécoises. On sent qu'il y a une espèce de gourmandise pour l'échange, pour le débat, pour la discussion et qu'on peut pas s'arrêter en fait.
Mais c'est le côté méditerranéen en fait, plus que québécois. Mais j'avais envie de ça. C'est très important les scènes de repas dans mon film. Il y en a deux très grandes et je pense que c'est là que se soudent les familles en fait. Moi, ça a été très important dans ma famille de s'asseoir à table le soir, même de semaine, et de prendre le temps d'échanger autour d'un repas, de réfléchir sur le monde. C'est comme ça qu'on a ri ensemble, qu'on s'est taquiné. Et donc oui, je pense que c'est primordial et que c'est quelque chose aussi qui se perd. Et donc j'avais envie de rendre hommage à ça parce que c'est un peu le repère du quotidien d'une famille en fait. Sinon, on ne se voit pas, on ne se croise pas.
C'est là où les familles se soudent ou se dessoudent. On pense au film de Desplechin.
Oui, bien sûr.
On pense aussi au dernier film de Xavier Dolan, notamment, où quand les parents retrouvent l'enfant, c'est aussi là où la rupture peut se faire.
Ouais. Moi, j'avais envie de. C'était un hommage à la famille. Enfin, c'est la question aussi de base que je pose dans mon film, c'est qu'est-ce que ça signifie la famille aujourd'hui en 2019 en Occident, et à quoi ça sert. Et comme moi, j'ai une famille qui était douce et aimante, j'avais envie de rendre hommage à ça aussi. C'était un défi, mais parce que effectivement les familles au cinéma sont souvent en déchirure, mais j'avais envie de raconter une famille heureuse, un peu comme on retrouve dans La gloire de mon père par exemple, d'Yves Robert, quelque chose d'assez joyeux chez Marcel Pagnol.
Et là, le père, Hichem, un peu à la manière de Denis Arcand que vous évoquiez tout à l'heure, on le sent assez inadapté dans cette époque, ex-communiste qui joue à la bourse sur Internet, il en tire quand même son parti. Ça, c'est une belle figure que vous avez campée aussi dans ce film. Hein.
Oui, c'était très important, le personnage du père, pour moi, il est possiblement le personnage le plus politique. D'abord parce qu'il est... Bon, on ne dit jamais d'où il vient exactement, mais on comprend qu'il est méditerranéen, entre le Maghreb et l'Orient, le Moyen-Orient. D'ailleurs, qui est joué par Sasson Gabay, qui est un acteur israélien, qui est né en Irak, donc sa première langue est l'arabe, mais il est juif. Enfin, je trouvais ça très intéressant, parce que pour moi, ça raconte aussi le fait qu'on vient du même endroit, en fait, qu'on est tous liés, et que Sasson peut aussi interpréter un homme d'origine peut-être musulmane, ou en tous les cas, on comprend qu'il est athée aussi, le personnage, mais... Et je voulais cette figure d'homme dans la soixantaine arabe, qui soit libre, qui parle librement de sexualité, qui boive du vin, qui aime ses enfants, qui fait la cuisine, qui danse, qui est doux, et qui peut contrer un peu les clichés et très douloureux hein, qu'on vit, enfin que moi je ressens aussi, même si je suis je ne suis pas frontalement arabisée. C'est une identité que je porte à l'intérieur de moi. Chez nous, on est berbère, mais c'est la même chose. Et j'avais envie de ce personnage qui un peu fasse une espèce de contrepoint de ce qu'on voit à l'image en fait le modèle arabe celui dont on nous martèle en ce moment depuis une dizaine d'années sur l'idée que les Arabes sont menaçants, ça se fait très très insidieusement la violence et la stigmatisation. Ça se fait par des petits coups dans la communauté juive. Ça s'est fait sur des décennies voire des centaines d'années et tranquillement on martèle l'idée dans la tête des gens que c'est un peuple menaçant.
Et là, c'est pas le cas. C'est un homme accueillant aussi.
Oui, et on ne parle jamais de son identité d'ailleurs. Il est là, il existe. Il n'a pas de fonction d'immigrer. Il est bien intégré parce qu'on ne parle jamais de ces gens qui sont là. Moi, mon père, ça fait plus de 40 ans qu'il est au Québec. Le père de mon ami d'enfance est sénégalais. Même chose. Et ce sont des hommes plus québécois que les Québécois. C'est-à-dire qu'ils sont une vraie joie d'être des Québécois et de faire partie d'un peuple. On ne parle jamais de ces gens qui sont totalement intégrés et qui gardent leur identité, mais en étant tout à fait intégrés à la société avec joie.
Votre héroïne, Sophia, elle a énormément d'humour. C'est une sorte de Bridget Jones, mais nouvelle génération. Là encore, on la suit dans son quotidien, en train d'essayer de cesser de se noyer, de reprendre un peu, de refaire surface. Et qu'est-ce qu'elle lit, votre héroïne? Eh bien, pour passer le temps et espionner son frère plus facilement, elle lit Homo sapiens Conardus du dessinateur Edika.
J'ai toujours eu un faible pour tout ce qui est inattendu, tout ce qui est contraste, de passer d'un univers à l'autre complètement. C'est ça que j'aime, c'est-à-dire j'aime d'abord essayer de m'étonner moi-même dans ce que je fais en pensant au lecteur en même temps. Et très souvent, je pense au lecteur et automatiquement, je me dis, mais là, le lecteur, il risque de penser ça et je veux montrer que je suis dans sa tête, que je m'attends à ce qu'il va dire. Mm-hmm. Donc voilà, c'est une façon de m'étonner moi-même aussi. C'est surtout un énorme plaisir parce que c'est des moments vraiment où, lorsque je fais ça, où j'ai l'impression que de m'en foutre de tout et de tout le monde. Donc voilà, c'est des moments de bonheur intense, vraiment intense.
Alors on sent l'influence de la bande dessinée, Monia Chokri, oui, dans votre film, avec un cinéma très graphique. Mais on voit aussi que vous avez envie, à travers les dialogues, un peu à la manière d'Edika dans ces bandes dessinées, de surprendre le lecteur avec des répliques percutantes, d'anticiper presque ce que pourrait être sa réaction. Il y a tous ces échanges entre le frère et la sœur, ce jeu qu'ils ont entre eux, de se poser des questions absolument horrible, avec des choix cornéliens à faire. Est-ce que tu préférerais nager dans une piscine de vomi ou dans une piscine de vers de terre? Si tu devais choisir entre le lupus et la maladie de Lyme pour le reste de tes jours, tu choisirais quoi? Et il y a ce jeu et cet humour en permanence que vous avez, vous, acquis, conquis à travers la bande dessinée.
Oui, c'est Edika, moi ça me fait mourir de rire, tous les flux glaciales. Mais ça, c'est un hommage aussi à mon frère parce que c'est lui qui m'a introduit, qui m'a initié à ces BDistes. Et c'est vrai que ça me fait pleurer de rire, Edika. C'est vraiment et d'ailleurs c'est le personnage, parce que quand il fait le frère, à un moment lui donne une espèce de combinaison d'homme idéal et lui dit qu'il écouterait les Kings, qu'il aime les chats et qu'il son personnage de BD auquel il s'associe, c'est Bronski. Et Bronski, c'est le personnage de Edika, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc oui, c'est par là que d'où mon humour vient aussi, c'est les fluides glaciales, et puis bien d'autres choses évidemment, mais oui, ils ont voilà.
Comment créer un personnage de femme drôle sans la caricaturer? Mm-hmm. Je vous propose d'écouter juste les mots encore de l'écrivaine autrichienne Elfriede Jelinek à ce sujet sur le comique et les femmes au cinéma et dans la littérature.
Oui, oser parodier quelque chose, c'est aussi montrer une certaine prétention à la domination, comme si je tentais par là de me placer au-dessus des hommes. Ça aussi, c'est castrateur. C'est bien pour cela qu'au cinéma, les femmes qui tenaient des rôles comiques étaient toujours des castratrices. C'était très rarement de belles femmes, à part Catherine Hepburn, qui était vraiment belle, mais aussi très masculine, très mince, très androgyne. Lorraine Bacall, parfois aussi. Mais la plupart des femmes vraiment comiques à Hollywood ne pouvaient pas être belles puisqu'elles étaient castratrices, qu'elles prenaient le pouvoir aux hommes. Aux femmes, on coupe les cheveux et aux hommes, on coupe la queue.
C'est pas évident de penser à un rôle de femme qui a de l'humour.
Oui, moi je rajouterais quand même que je suis d'accord avec elle qu'il y a soit la castratrice, la marâtre, mais il y a aussi la femme trop sexy, idiote en fait. Ça c'est aussi une autre forme d'humour qu'on avait de mettre les femmes un peu dans... Mais ça reste encore dans une... Elles sont positionnées en fragilité par rapport aux hommes et ça on trouve ça un peu sexy, la femme... il faut qu'elle reste sexy en fait quand elle est drôle. Ouais. Donc trouver cette espèce de personnage qui n'est ni la marâtre, donc qui se positionne en à la blague en horizontalité avec les hommes, mais pas parce qu'elle couche avec eux, mais bien parce qu'elle est à égalité. C'est compliqué parce que effectivement, c'est comme si on dérobe quelque chose aux hommes. Moi, je trouve qu'il y a un truc chez les hommes qui me fascine, c'est l'idée qu'une femme soit plus drôle qu'eux. On accorde très peu cela aux femmes, c'est-à-dire qu'un homme va très peu dire à une femme oui je te trouve très drôle et très séduisante en même temps, ça me séduit ton humour, comme si on dérobait quelque chose aux hommes, comme si ça faisait partie du pouvoir des hommes de faire rire. Et rire et faire rire, ça veut dire effectivement pas sans les dire mais mettre de l'avant des travers. Donc c'est compliqué parce que donc on ne doit pas être dans la séduction. Et j'ai senti d'ailleurs dans le personnage duquel donc le personnage de Sophia dans mon film, les femmes s'identifient énormément à elle, énormément, et il y a une certaine catégorie d'hommes plus âgés, chez les journalistes je l'ai vu, qui rejettent totalement le personnage. Et comment l'attribuer? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a de l'ordre du rejet par rapport au fait qu'elle ne tente pas de les séduire.
Qu'elle n'est pas assez féminine, qu'elle est dans un humour qui peut être considéré aussi plutôt du registre masculin.
Masculin, ouais. Peut-être. Ouais. Mais donc, si elle n'est pas à l'écran pour séduire, on doit la rejeter. Donc, voilà. J'ai eu l'impression simplement, et quand je le vois dans le regard des femmes qui se reconnaissent dans le personnage, j'ai eu l'impression de raconter juste l'histoire d'une femme normale. Et si cette femme normale est considérée, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, c'est très audacieux d'écrire un personnage comme ça à l'écran, un personnage féminin comme ça », je me suis dit « Il y a encore énormément de travail à faire dans l'imaginaire collectif au niveau de l'écran ».
Qu'est-ce que c'est une femme normale pour vous aujourd'hui ?
Bah, c'est quelqu'un qui est fragile par rapport à son identité, par rapport à son rapport à la maternité, par rapport au savoir, par rapport à son physique. Il y a plein de choses intimes que je raconte de la vie des femmes dans le film. Et voilà, c'est normal. Enfin, c'est compliqué de dire ce qu'est la normalité. Mais je pense juste aborder des sujets qui sont énormément dans la tête des femmes et qu'elles n'osent peut-être pas forcément articuler. Ça, je l'ai vu aussi dans beaucoup de messages qu'on m'a envoyés par rapport au film. Des femmes qui m'ont dit « c'est moi », c'est des questionnements que j'ai, mais je n'ose jamais en parler. Voilà.
Avec ce brin de folie qu'on retrouve dans des personnages que vous avez pu incarner, notamment dans « On ment toujours à ce qu'on aime », sorti en France l'an passé, ce rapport acteur-réalisateur, ce qu'on peut mettre de soi aussi dans un personnage, Xavier Dolan, pour qui vous avez joué dans « Les amours imaginaires » et « Laurence Anyways », a cette jolie formule sur le mélange des rôles.
C'est ce que je dis souvent aux gens qui me disent « vous ne jouez pas dans ce film-là », je dis « attention, c'est parce que vous ne me voyez pas à l'écran que je n'ai pas joué, en tout cas avec les acteurs ».
Stop, on va écouter la suite tout à l'heure. Vous jouez aussi, vous,
oui,
derrière votre caméra?
Moi, j'ai appris avec Xavier tout à fait cette technique. Enfin, je ne saurais pas faire autrement, mais je suis sous la table. C'est-à-dire que je ne peux pas être à mon combo dans le fin fond de la pièce. Je suis à côté des acteurs, sous la chaise, et je joue avec eux en permanence.
Voilà, il n'y a pas besoin d'être devant la caméra, sur le plateau
de
tournage.
Moi, je rentrais le soir, j'avais l'impression que j'avais joué avec tout le monde.
Xavier Dolan, la suite de l'explication.
Étant acteur moi-même, la seule vraie manière que j'ai de réaliser une scène, c'est pas tant en la réalisant qu'en la jouant. Les mouvements de caméra, de toute manière, les mouvements de la lumière, les décors, les costumes, il est insensé et indu que tout ça ne soit pas créé en fonction de l'acteur, puis en fonction de l'humain. Moi, c'est vrai que j'essaie d'aller de plus en plus vers un cinéma qui est fusionnel avec l'histoire, mais où le récit domine le style, puis la forme, ou le fond. C'est très important pour moi, la forme, mais j'ai compris, en faisant certaines erreurs, que même il faut regarder l'élégance qu'ont les acteurs de comprendre que la forme est plus importante qu'eux dans ce film. Que leur performance est alignée avec les libertés visuelles. Ils sont là pour servir une caméra, ils sont là pour servir un style. Donc, il y a toutes sortes de cinémas qui se valent. Mais c'est vrai que celui qui, moi, me fascine depuis toujours est un cinéma plus humain que technique.
Alors là, moi, j'ai pas tout compris, Monia Chokri, mais vous qui parlez le
Xavier Dolan. Je suis totalement d'accord.
Expliquez-nous.
En fait, c'est l'idée que tout ce qui est déterminé dans le film, en fait, c'est qu'on part de l'acteur, en fait, on part de l'histoire et du personnage. Ce qui est important, c'est que tout ce qui se passe autour serve la situation, les personnages, le jeu de l'acteur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un mouvement de caméra, juste pour faire beau. On le fait parce que ça fait sens avec l'esprit du personnage. On choisit un costume parce que ça fait sens avec l'esprit du personnage. Et donc, tout doit se décliner autour du personnage. Et je pense que ça, c'est la manière qu'on a, les deux, effectivement, de percevoir le cinéma.
En réalisant ce premier long métrage, La femme de mon frère, vous avez chopé, vous, le virus ou le goût, tout simplement, de la mise en scène ?
Absolument, mais je l'ai eu dès que j'ai fait le court métrage « Quelqu'un d'extraordinaire ». J'ai compris que c'était c'est très très difficile, on perd une année de vie à chaque fois qu'on fait un film, mais le jeu en vaut la chandelle.
Vous avez quel âge du coup aujourd'hui?
36 ans, j'ai 37 ans jeudi.
Merci beaucoup à vous, Monia Chokri, d'être passée autour de cette grande table. Je rappelle donc que ce premier long métrage qui a suivi un premier court métrage sortira en salle en France ce mercredi, La femme de mon frère, prix coup de cœur du jury à Cannes dans la section Un certain regard en mai dernier. Merci.